Leslie John au couloir numéro 2. Allez, ouais, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, super marqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Instant Sport, exactement, c'est le 78e. Laurent, s'il te plaît, je suis en train de présenter l'émission, tu parleras après. C'est pas grave.
C'est combien, le 78e ?
78e, comme la semaine dernière, parce que je m'étais trompé la semaine dernière.
Ok.
Avec un invité aujourd'hui, Maxime André, le coach adjoint de l'équipe 1, senior du MGC, salut.
Bonjour à tous.
Alors on va revenir avec toi sur l'équipe 1, sur ton rôle d'entraîneur adjoint, sur le match qui s'est déroulé ce week-end, et également sur l'équipe des moins de 18 ans féminines que tu coaches.
Tout à fait, oui.
Voilà, que tu nous parles un peu de cette équipe, des résultats. Et d'ailleurs, il y en a pas mal, on en a parlé la semaine dernière, qui ont été championnes UCL.
Avec plaisir, oui, tout à fait, pour la troisième année consécutive.
Ouais, donc c'est bon, il y a de la relève. On va pouvoir les faire entrer dans l'équipe 1 masculine, peut-être. L'an prochain, dans 2 ans.
Il faudra.
Alors, salut Julien, comment ça va ?
Eh bien, ça va, merci, bonjour à toutes et à tous.
Alors, on m'a dit, mais ce ne sont pas des personnes sûres, que tu avais fait 5 passes décisives du côté de Remaze ce week-end.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
C'est des mauvaises sources. On a gagné 6-2, mais il n'y a pas eu les 5 passes décisives.
Bon, c'est pas grave, pour la prochaine fois.
Voilà.
Aurélien, lui, a joué à empiler des blocs cette semaine. Salut Aurélien.
Bonjour à tous.
Alors, le bloc isostalien au mur du monde qui est venu ?
Oui, du monde, oui, oui. Très content. Du monde des Lozériens, des gens qui sont venus de l'extérieur. Il y a même Laurent qui est venu me faire un petit coucou. Mmh. Donc, très sympa.
Très bien, Laurent.
Ouais, il a fait la une de Midi Libre quand même.
Oui, je vais l'afficher d'ailleurs dans le studio. Ce qui est très beau dessus.
Ouais, t'as vu ?
Et ça a tenu là le week-end, les murs sont pas tombés ?
C'est bon, nickel.
C'est bon, ouais. Ça tient. On peut continuer à aller voir la maison alors ?
Oui, oui, tout à fait, ouais.
Bon,
à la route de Riocross, faut préciser. Puisque...
Merci. Voilà. Ben, oui, oui, il faut préciser.
Pour aller voir la maison, il faut savoir où aller.
On ne sait pas. Salut Laurent, tu as vu le tableau des pronostics a évolué, mais ce n'est pas toi qui a marqué.
Ah oui,
c'est encore qui Patrick qui est à 5 points maintenant. Donc là,
ça va devenir compliqué.
Il creuse l'écart
aujourd'hui. Alors, il ne creusera pas l'écart aujourd'hui.
On ne sait pas. Peut-être qu'il va arriver. Il est Thomas Gros. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Donc peut-être qu'il va arriver. Peut-être qu'il ne va pas arriver. S'il n'est pas là, la nouvelle règle qu'on a instaurée la semaine dernière, c'est Maxime qui va parier pour Patrick.
Bah, c'est bon, il n'aura pas, pas de points.
On ne sait pas. On sait pas.
Méfie-toi, Laurent.
Ouais. Il vaudrait mieux que ça soit toi qui parie pour Patrick pour qu'il n'ait pas de points. Et en plus, Patrick m'a dit, moi je reviens pas tant que Laurent a pas marqué de points, donc il va falloir attendre la semaine prochaine pour revoir Patrick.
Ouais. Hein,
parce que là, je te sens bien. Dortmund, oui, oui. Monaco,
ah oui.
Sans Sidibé qui est une crise d'appendicite.
Ah ouais.
Important,
ouais.
Chouchoute.
D'accord.
Allez, on commence donc par le handball avec Maxime. Donc on peut le dire, mauvaise opération pour le MGC après ce match nul à domicile contre la Lanterne Rouge, Vaux-en-Velin, 32 partout. Tu ne poses pas de temps mort encore, Laurent.
Je sens que Laurent m'attend sur ça.
Ouais.
Non, mauvaise opération, oui. Opération catastrophique, non. Parce que, au vu de la physionomie du match, Juju y était, Laurent y était. On a fait match nul. On est à moins 5 à 35e, moins 5 à 45e. Les garçons se sont battus. Après, on avait espoir de prendre 3 points.
Voilà, c'est le match que tu peux gagner, mais que tu peux perdre aussi.
Que tu peux perdre, voilà.
Alors en plus, on n'en était pas sûr depuis quelques semaines. On pensait que donc, cette 9e place était synonyme de barrage pour rester dans l'élite. En fait, non. Cette 9e place, elle permet de se maintenir sans passer par un barrage. Donc pour l'instant, on se maintient.
Donc du coup, bonne opération, puisqu'on a pris un point sur nos adversaires directs.
Voilà, parce que Montluçon et Voiron ont perdu. Donc ils sont derrière, Saint-Genis-Laval qu'on regardait la semaine dernière est devant mais il ne nous intéresse plus. Le capitaine va nous donner le classement justement pour qu'on s'en rende compte.
Alors le classement donc du handball 12e et dernier, Vaux-en-Velin avec 24 points, 11e Voiron 26 points, 10e Montluçon 28, 9e donc Mende 30 points et 8e Saint-Genis-Laval 34 points.
Voilà, donc on reste à 2 points du 10e, le premier relégable, Montluçon. Et d'ailleurs, on ira jouer à Montluçon dans pas longtemps.
Tout à fait, on ira avant-dernière journée, avec quand même quelque chose de non négligeable, c'est qu'on a battu de 15 buts à l'aller. Donc en gros, on a 2 points d'avance, mais presque 2+1, j'ai envie de dire, puisqu'il faudra aller là-bas. On ira dans l'optique de gagner, bien sûr, ça...
Voilà, parce que si jamais vous perdez, c'est 2 points, c'est 3 points la victoire, 1 point la défaite, donc il y a égalité, et on va pas quand même perdre de 16 ou 17 buts là-bas.
Si après, on arrive là-bas avec,
voilà, nous on regarde pas que, on regarde pas que Montluçon, on a Valence à jouer, on va recevoir 2 fois à la maison, bon, Bourgouet, Jallieu et Saint-Priest, on voit que c'est bien classé, mais avec un peu d'espoir, on espère que leur classement soit figé, qu'ils aient plus trop grand chose à jouer, quoi.
Parce que là, le premier monte directement, donc Saint-Flour quand même avec 7 points d'avance, c'est quasiment fait. Ouais. Et le deuxième sera barragiste. Donc, par contre, voilà, Bourgoin-Jallieu, L'Oriol, Saint-Priest, ça peut encore jouer la montée. Donc ça va être compliqué. Laurent, tu voulais intervenir ?
Ouais, mais plus maintenant, parce que en fait, je voulais juste dire que cette nouvelle règle, enfin, ce que Maxime nous a fait voir avant l'émission, qu'il a trouvé, du coup, qui change tout ce qu'on a dit depuis le début de la saison. À savoir que cette 9e place était barragiste et elle ne l'est plus, donc du coup ça change beaucoup de choses. Et voilà, c'est ce que je voulais dire.
Donc pour toi, c'est plus une mauvaise opération,
donc
ce match-là.
C'est plus une mauvaise opération. Alors j'avais prévu d'être peut-être un petit peu dur aujourd'hui avec le MGC, suite à ce match contre le dernier Vaulx-en-Velin. Et puis finalement, non. Finalement, bon, on gagne que 1 point, mais c'est déjà pas mal sur nos concurrents. 3 points, ça aurait été mieux, enfin, ou 2 points de plus. Mais voilà, c'est un match qui était bizarre, parce que le dernier, on ne s'attend pas à ce qu'il ait un niveau comme ça. Ça a été une bonne équipe adverse. Ils sont montés ils sont venus qu'à 8 joueurs, donc on pensait que physiquement, en deuxième mi-temps, ça allait craquer.
Ça tiendrait pas.
Et puis finalement, si, ils ont réussi à tenir physiquement, et puis bon, voilà... Rigolé, j'avais prévu mon introduction en parlant de ce fameux temps mort qui nous a un petit peu joué des tours.
Explique pour nos auditeurs alors, qu'est-ce que c'est ce temps mort ?
C'est un temps mort à 30 secondes de la fin du match, où donc évidemment on a la balle, on a plus un. C'est Flo Coste qui a la balle, enfin au moment où l'arbitre siffle, alors avant. Enfin, Maxime nous racontera mieux. Et Flo Coste, il faut savoir qu'il était dans un super jour. Il marquait quasiment à chaque action.
9/11, mais, il a fait.
Ouais. Et au moment où il tire, le gong sonne. Et bien sûr, il marque. Et donc, on aurait pu être à plus 2 à 30 secondes de la fin. Et on revient à plus 1. Et on ne marque pas ce but. Et voilà, les autres prennent la balle et bim, ils nous égalisent.
À 4 secondes de la fin. Alors voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un décalage entre le moment où tu demandes un temps mort et le moment où il est sifflé, un décalage. C'est ça ?
Tout à fait, ouais. Moi je pose le temps mort quand la balle est à notre demi-centre. Et le temps que la table s'organise, que ça sonne. Voilà, Flo Coste avait gagné le duel, c'est vrai qu'il avait poussé, il avait marqué. Mais comme on dit, avec les six, à chaque fois on referait le monde. Ouais. Voilà. J'ai préféré le poser parce qu'il m'en reste un. On est à plus 1. Malheureusement, ils ont levé le bras. Du coup, ça m'a un peu pénalisé sur la tactique que je voulais mettre en place parce qu'on n'avait que 4 passes, du coup, parce qu'ils avaient levé le bras. Mais la passe du gaucher au demi-centre, ça faisait enlever une.
Passe de il y a 4 passes ou 6 passes ?
6 passes, mais ils en avaient déjà fait
2. Ah, ils en avaient déjà eu 2.
Donc, d'accord. Il restait 4 passes. Donc, faire une combinaison sur 4 passes. Je voulais amener Flo Coste au tir central, vu qu'il était, comme tu dis, un peu on fire.
Parce qu'après, il peut y avoir refus de jeu, si justement.
Tout à fait, il peut y avoir refus de jeu. Donc, voilà. C'est avec les 6, on refait. Voilà.
Après, de toute façon, ça s'est pas joué sur les 30 dernières secondes.
C'est évident.
Comme tu dis, c'est un peu la défaite est un peu dure. Elle est au goût amer, on va dire.
Le match nul.
Oui. Enfin, moi là, c'est.
Non, mais c'est.
Ça aurait pu être une défaite, si tu veux. Morale, dans le sens où s'ils arrachent un match nul et que tout le match on mène, tout le match. Non, c'est vraiment à contrario. On court après le score. On n'est pas bien.
Je voulais juste finir sur ce match. C'est ce qui laisse des regrets. Bon, il y a cette fin de match un peu bizarre, mais c'est ce problème récurrent de défense. On reçoit le dernier à domicile et on prend 32 pions. Pour moi, c'est énorme. Je ne suis pas spécialiste en balle.
10 arrêts sur les 2 goals. Donc ça, déjà, on voit Gaëtan en rush. 2 arrêts alors qu'il était largement au-dessus ces derniers matchs.
Oui, après, c'est vrai que bon, on a toujours espoir.
Il n'y a pas que les goals. Hein, pour le niveau défensif,
on a toujours espoir d'avoir...
C'est une équipe qui défend.
toujours espoir d'avoir des gardiens de but qui nous fassent des exploits. Maintenant, qu'on a des joueurs, qu'on a des joueurs comme on a eu ces week-ends, on avait trois gros joueurs qui ont connu le, comme je t'ai expliqué Laurent, ouais. connu le niveau supérieur, pour la D1, pour le numéro 2 par exemple.
Ça se voyait. Ouais.
Si ces garçons-là, tu les laisses jouer, ils prennent de la confiance, tout ce qu'ils font, ça marque. Tout ce qu'ils font, tu vas voir n'importe qui dans les buts, tout ce qu'ils font, ça marque. Donc à mon avis, il faut les toucher, il faut se montrer que t'es là. C'est un sport de combat, il faut, voilà, deux, trois, de temps en temps, ça fait du bien, ça casse un peu.
Est-ce que l'équipe n'était pas un peu crispée par ce match
On essaye de faire en sorte que non. Hein. Pascal tient un discours aussi pour apaiser tout ça. Moi, j'essaye derrière de faire, prendre du plaisir à la semaine. Mais quand tu es dans une dynamique de maintien depuis le début de la saison, tu ne peux pas t'oublier du jour au lendemain. Quoi. Donc, forcément, quand tu vois le dernier qui mène chez toi, ben, tu te crispes un peu.
Ouais.
Julien. Oui, mais sur le match, on a eu l'impression que finalement, toute la saison du MGCL a été résumée sur ce match. Avec des trous d'air qui les ont mis dans le mal avec deux fois un écart de moins 5, une mauvaise entame. À cause de cette entame, le MGC a dû courir après le match et je pense que pour se mettre en confiance dans ce genre de match, y a mieux à faire. Mais au-delà de ces trous d'air, il y a aussi une super réaction puisque en revenant deux fois à moins 5, on voit aussi que le MGC est capable de faire des bonnes choses dans ce championnat.
Et passer devant.
Et puis, bon, voilà, fin de match, comme l'a dit Max, où on court un peu après le score, et on se dit, tiens, on mène 32-31, mais finalement, à se dire qu'on va prendre le but, on le prend, quoi. Et c'est sûr que ça tombe à 4 secondes de la fin, ça fait mal de faire 32-32 à la maison, surtout après être allé chercher une victoire à l'extérieur la semaine dernière, qui aurait
fait du bien. Mais d'un but aussi, c'est ça, la semaine dernière. Hein. Donc, ça se joue pareil, finalement même, tous les matchs, même
moins
scénario.
Moins 5 à la mi-temps, on se bat, on revient, on reprend un trou, on revient,
ça tourne dans l'autre sens, quoi. C'est des trous qui font mal tout au long de la saison, et c'est dommage presque de ne pas être capable de faire 60 minutes de qualité.
Des trous d'air, il leur faut un bloc isostal. Aurélien, voilà,
exactement. Non, moi, je voulais te demander, après justement cette victoire à l'extérieur de la dernière fois, on pensait que quand recevant le dernier, on pouvait capitaliser sur cette victoire. Est-ce qu'avec le recul, tu arrives déjà à avoir un recul sur le match? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que là, on a un peu parlé de la fin de match, de points particuliers. Mais d'une manière générale, pourquoi vous êtes à domicile à moins 5 plusieurs fois dans le match? Est-ce que tu arrives déjà à avoir un recul là-dessus?
Chaque match est différent. Après, j'ai envie comme on dit aux garçons à chaque fois, il faut pas négliger Vaulx-en-Velin. C'est sûr, ils arrivent à 8, ils s'échauffent. C'est des garçons ils font du spectacle, ils font du poignet. Tu as l'impression qu'ils sont pas dans les optiques de gagner un combat, gagner un match. Finalement, ils te tiennent, ils te mènent. Il faut, dans la continuité de la chose, Vaulx-en-Velin, c'était un match à l'extérieur. C'est la première victoire à l'extérieur de la saison. Il ne faut pas le souligner. À mon avis, elle sera très importante sur le plan comptable.
Et sur ce match-là, pour revenir à la question d'Aurélien, sur ce match-là, avec deux jours pour digérer tout ça, qu'est-ce qui a manqué finalement?
Qu'est-ce qui a manqué Julien l'a dit, non, peut-être un peu plus d'agressivité défensive, moins laisser jouer les 2-3 joueurs un peu phares de Vaulx. Après, qu'est-ce qui manque? On peut dire plein de choses, un peu de facilité technique, de bonne gestion de la montée de balle, moins d'échecs au tir à 6 mètres. Hein. J'ai 4-5 actions en tête où on fait briller le gardien adverse, parce qu'il faut juste un gardien qui prend beaucoup d'envergure, un peu comme Laurent.
Il ressemblait surtout au black de la ligne verte. Tu vois. C'était un...
Ah oui, ouais, c'est grand.
Du coup,
c'est
quand Robin tire un pénalty, j'aurais pas aimé être à la place de Robin, quoi.
Mais surtout que le gardien sur sa ligne, sur les 7 mètres, à chaque fois il faisait un peu de spectacle, il faisait une petite danse pour essayer de déconcentrer. Enfin, au final, on a l'impression que dans l'état d'esprit qu'ils sont venus, Vaulx-en-Velin, un petit peu presque décontracté, de jouer relâché en se disant que pour eux le N3, le maintien, c'est fini. En jouant relâché, ils ont fait mal au MGC et je pense que s'ils continuent comme ça, ils vont peut-être accrocher une ou deux victoires avant la fin de la saison pour.
Ah non, hein.
On espère qu'ils
vont. Non, ils sont trop.
On espère qu'ils accrocheront Montluçon la dernière journée.
Ah oui, leur dirigeant était un peu moins relâché.
Ouais, non, lui, il était à fond.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça se joue dans tous les sports, ça, les fins de saison, on sait qu'on n'a plus rien à jouer et tout d'un coup, on voit Lorient en Ligue 1.
On voit Montpellier.
On voit Montpellier à Caen. Voilà. C'est plus facile de jouer sans avoir rien à jouer finalement et que sur un match comme ça où tu le disais, hein, Maxime, on joue le maintien depuis des semaines, là on y est au maintien, on y est depuis la semaine dernière, on a cette 9e place et c'est extrêmement compliqué. Côté stats, donc on a Coste 9 sur 11, tu en parlais, Bocanegro 4 sur 6, Bartholome 7 sur 9, Cavalier 2 sur 3, Chanière est un peu en dessous, 4 sur 11 je vois, 1 sur 2 pour Fournel, 1 sur 2 pour Catalin, 4 sur 7 pour Pote et Joubert Mizouni, il n'a pas marqué.
Il a été un petit peu moins utilisé Mounir Milzouni. Après, c'est un choix purement personnel par rapport à la physionomie du match. J'ai préféré donner les clés du jeu à Xavier et utiliser Flokos, comme l'a dit Laurent, qui était vraiment on fire. Donc Flokos a joué à droite, a joué à gauche. Voilà.
Milzouni a été sanctionné. Alors, c'est une règle que je ne comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est un peu la gueule du client. Tu es sanctionné deux fois de passage en force. J'ai l'impression que ça arrive régulièrement en fait, qu'un joueur il bute. Alors, souvent c'est pas sifflé, et là lui les deux fois, bim, deux fois il
C'est vrai que c'est à l'appréciation de l'arbitre, c'est comme au basket.
Après, Mounir a souvent, pour bien le voir trois fois par semaine, Mounir a un jeu au prêt, et souvent il a un jeu au prêt, et le fait de, je vois l'action que tu dis, en fait il lâche le ballon au contact, quoi. Et c'est vraiment l'arbitre peut juger qu'en fait il se sert du contact pour faire le décalage.
Ah, d'accord.
Au niveau de la fermeture, c'est tout. Voilà. Il doit lâcher normalement avant contact. S'il lâche avant contact et qu'après il prend le joueur, voilà, il n'y aura pas passé l'info parce qu'il a lâché sa balle. Mais là, il se sert du contact pour créer le décalage parce que le gars vient fermer.
D'accord.
Du coup, ça crée le décalage.
Avec au basket, c'est le contraire. Tu peux te servir justement du contact pour après tirer.
Ouais, ça dépend des situations aussi. Ouais. Il faut être immobile ou surtout ne pas avancer vers l'attaquant. Il y a plusieurs points particuliers aussi. Ouais. Donc, c'est aussi souvent à l'appréciation de l'arbitre. Ouais.
D'ailleurs, tu pourrais donner des conseils, parce que toi, le maintien, tu le joues depuis 10 ans avec le BCM.
mais nous, on joue relâché, mais à chaque fois, il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc, le prochain, qu'est-ce qui se passe là, niveau agenda? Prochain match, tu nous disais.
Là, il n'y a rien ce week-end.
Il n'y a rien.
Après, on va à Valence, avec espoir de faire quelque chose. Voilà, on n'y a pas encore préparé ce match, on va en attaquer dès mercredi. La mardi, ils sont en repos. Mercredi, on va débriefer Boisvelin brièvement.
Ouais.
Ensuite, on va partir sur la préparation de Valence. Valence qui, comme on l'a dit en aparté, perd tout depuis janvier parce que leurs 4-5 meilleurs joueurs jouent avec la Pro D2. Donc on a espoir qu'ils ne mettent pas la Pro D2 contre le MGC Handball. Nous, on va là-bas avec, je pense, un plan tactique de ne pas courir plus vite qu'eux parce que c'est des jeunes, c'est des, entre guillemets, des gamins. Donc ils vont courir plus vite que nous 60 minutes. Donc on va essayer de jouer plutôt dans une dynamique de combat, de rapport de force.
Faut mettre des tampons, si
voilà.
C'est des gamins, un physique, Laurent.
C'est ça. Après, on a espoir si tu vas à Valence, après tu prépares la réception de Bourgoin, second. Fin avril. Voilà, on a perdu moins 4 là-bas. On était à égalité à 55e. Ils ont perdu ce week-end à l'extérieur. Tu peux espérer. Il faut préparer. Il faut les prendre les uns après les autres. De toute façon, là, on n'est plus sur la longue durée. On prend un par un. Et on fera les comptes à la fin, comme on dit.
J'ai l'impression que.
Pour en revenir sur le match, tu me fais penser à une question avec ta tactique là pour le prochain match. Vu que Voix-en-Velin, ils sont venus à 8, est-ce que justement, ils n'ont pas joué sur un faux rythme? Est-ce qu'ils se sont pas servis aussi de cette infériorité au niveau des joueurs pour imposer leur jeu?
Tout à fait, ouais. Au début de match, ils ont mis un espèce de faux rythme, mais ils accéléraient très vite et ils avaient des bras. Les tirs de loin, et du coup, nous, on était en demi-position au niveau défensif. On montait pas vraiment. Ils ont laissé parler ce bras. De suite, ils sont mis en confiance. Et nous, on n'a pas monté les ballons suffisamment pour les mettre dans un niveau un peu oxy, comme on dit. Après, est-ce qu'on avait cette faculté à le faire? Voilà.
Et Valence, ouais, ils perdent. Mais là, ils ont perdu que de 4 buts à Saint-Genis-Laval. Donc, va falloir quand même faire attention.
Au match aller, il leur en a mis 13.
À Valence?
Oui.
Ah ouais.
Voilà.
Valence, il reste sur 3 défaites d'affilée. Je sais pas si.
Valence, c'est. Il faut pas.
Est-ce qu'ils peuvent descendre encore Valence ou ils sont trop loin? Donc,
non.
Ouais, ils jouent plus rien.
Ils jouent plus rien. Après, la Pro D2.
Ils jouent plus rien, ils sont à 4 points du second quand même. Hein,
ouais, mais la Pro D2 est très mal. Elle est avant-dernière. Elle va sûrement descendre en National 1.
Donc il faut qu'ils se sauvent.
Qu'ils se sauvent à N3.
Ok. Explique-nous un peu le rôle d'un coach adjoint. Donc, on a souvent Pascal ici. On prend les entraîneurs des équipes phares de Mende, bien entendu. Et c'est intéressant de t'avoir justement parce que tu es autant au travail que Pascal finalement. Tu es tout le temps aux entraînements, tu es tout le temps au match, etc. Pour nos auditeurs, peut-être leur expliquer
Même
un peu.
Il prend régulièrement la parole sur les temps morts.
Voilà. Explique-nous un peu quel est le rôle d'un coach adjoint en handball et pour le MGC.
Alors là, ça peut être un petit peu faussé, on va dire, depuis après Saint-Genis, parce que depuis Voiron la semaine dernière, c'est moi qui fais le coaching, entre guillemets, je vais bien mettre entre guillemets, sur les rencontres. Mm-hmm. Pascal est plus dans un appui technique, à sa demande, parce qu'il a besoin d'avoir un petit peu de recul.
De recul,
donc
ouais.
C'est plus moi qui fais la communication auprès des joueurs.
C'est déjà un premier rôle du coach adjoint, ça peut se permettre de s'appuyer dessus sur certains matchs pour se dire, moi je prends du recul parce que là j'arrive plus, je trouve pas la solution, donc je vais aller en retrait.
Tout à fait. Ouais. Du coup, ça permet à Pascal de prendre du recul, de me donner des pistes, et derrière on le dit aux joueurs. Après, sur la saison, bon, moi ça part tout d'abord de ma volonté personnelle, suite à une blessure l'an dernier, ligament croisé. J'ai demandé aux dirigeants et à Pascal de rester investi auprès de l'équipe première, en association avec le coaching de mes filles moins de 18. C'est un rôle très particulier. Je m'adresse tous les jours à mes copains, on va dire, à mes potes. Il y a des garçons avec qui j'ai vécu des grandes et belles choses, que ce soit sportif et dans la vie. Mais il faut savoir changer de casquette. Il faut savoir prendre les mots, prendre du recul. Moi, je suis assez bouillant déjà de l'intérieur. Quand j'étais sur le terrain, bon, ils me connaissent. Donc, il faut savoir faire accepter les choses en sachant que ça peut être interprété. Voilà, il faut... faut bien prendre des pincettes, quoi. Mais après, quand il faut... Là, je le vois depuis deux matchs. Quand je demande quelque chose sur le coaching, il faut que ce soit ferme. Quand je fais des choix tactiques, quand je fais des remplacements, il faut que ce soit accepté. Parce que si ce n'est pas accepté, c'est très dur. Voilà.
Au niveau des entraînements aussi, quel est ton rôle? Parce qu'on sait qu'en foot, il y a certains entraîneurs qui ne vont pas du tout entraînement, qui laissent gérer l'entraîneur adjoint. Je parle de Ligue 1, on voyait avec Blanc et Gasset, c'est Gasset qui faisait les entraînements, parce qu'il a servi à Montpellier pour cette très belle victoire à Caen d'ailleurs. Sur les entraînements, tu as un rôle spécifique toi?
Au début, c'était plus du conseil individuel. Et là, depuis 15 jours, comme je t'ai expliqué, c'est moi qui monte la séance.
Tu montes la séance, carrément.
Après, Pascal a des billes, comment dire, tactiques par rapport à l'adversaire du week-end. Et il fait souvent sous tableau noir un petit quart d'heure où il met en avant ce qu'il veut dire. Mais après, sinon, c'est moi qui montais la séance dernièrement. Mais avant, c'était plus individuel, le garçon à part, lui dire, tiens, pense à ça.
Enfin, d'accord, ouais. Voilà. Aurélien,
du coup, j'ai deux questions en une. La première, est-ce que du coup, tu penses, est-ce que tu trouves que c'est plutôt un avantage ou un désavantage de les connaître la plupart des joueurs? Et deuxièmement, toi, ton avenir personnel, est-ce qu'après ta blessure, tu vas revenir jouer ou est-ce que tu es dans une optique de continuer à coacher?
Alors, pour répondre à ta première question, c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage dans le sens où je sais qu'ils sont capables de faire. Et un inconvénient dans le sens où quand ils font pas, il faut pas que je, comment dire, faut pas que je les braque, quoi. Au contraire, je pense à un garçon, à Robin Bartholomé, là. C'est mon compère de l'arrière droit l'an dernier. Et c'est un garçon qui a un bras monstrueux. Lolo le sait bien. Et c'est un garçon qui est en confiance. Quand il est en confiance, ça va marcher, quoi. Sauf que quand il est pas en confiance, il va me dire excuse-moi, Max. Mais je sais que il a pas à s'excuser. Et moi, je sais que derrière, je sais qu'il va redonner de sa personne. Et c'est, voilà. Il n'y a pas d'avantage, pas d'inconvénient, mais il faut un juste milieu, quoi, avec eux. Et deuxième chose, personnellement, je suis joueur. Je suis joueur, j'ai que 24 ans et j'adore le coaching, je prends beaucoup de plaisir. Avec mes moins de 18 filles, je me régale. Avec l'équipe 1, je me régale parce que ça me permet d'être près du terrain, quoi. Je transpire autant qu'eux. Mais je suis joueur et je reviendrai joueur dès septembre.
Ok. Et que joueur, pas entraîneur-joueur entraîneur.
Après, peut-être que je garderai une équipe catégorie jeune si le club a besoin, quoi que ce soit. Mais après, je pense qu'au niveau national 3, il y a des diplômes, donc c'est pas pour rien.
Ah, oui.
Et d'une. Et de deux, il faut un discours. Voilà.
Oui, c'est compliqué.
La double casquette à un niveau. Oui, mais après, à un niveau un peu plus supérieur, ça me paraît compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Toi, tu voulais être entraîneur-joueur pour te mettre capitaine, Laurent? L'avant-centre.
Tu dis n'importe quoi.
Alors, on va tous jouer pour l'avant-centre.
Maxime a tout à fait raison. On avait déjà discuté avec le coach Constant qui avait constaté que tu peux pas, à haut niveau, être joueur et entraîneur. Et c'est évident que pour le handball, c'est pareil, quoi.
Exactement. On va parler de tes filles, justement, les moins de 18 ans féminines. Alors, vous en êtes où avec cette équipe?
Mais on est premier d'excellence région.
Et voilà, bravo.
Donc bon, après j'ai un groupe de filles, à ma décharge, il y a eu beaucoup de travail de fait avant moi, hein, bien sûr. Je pense à Iblis Dublin, Fred Vasseur, les formateurs du club, qui ont fait beaucoup de travail sur cette catégorie-là. Elles sont triple championne de France, Uccelles, pardon. C'est une équipe qui a fait 18 ans nationaux pendant 2-3 saisons. Là, elles arrivent au niveau régional. On est à 11 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà. Après, c'est un groupe de filles assez jeunes et donc il faut créer une alchimie. Et même si elle y est déjà, il faut attention aux petits conflits. C'est tout ça, c'est beaucoup de pédagogie, on va dire.
Non, mais on en avait parlé de cette équipe de moins de 18. J'étais venu vous voir contre le premier quand vous étiez second le MUC. Bon, il y a eu
comme par hasard le MUC.
Le MUC, ouais. Je m'étais régalé. Bon, il y avait eu beaucoup de buts parce qu'il y avait eu des circonstances. Erin avait pris un carton rouge. Erin, c'est la goal, avait pris un carton rouge assez rapidement. Donc évidemment, c'est pas pareil dans les automatismes. Mais c'était très vivant et animé. Les filles se donnent à fond. Je m'étais régalé, quoi. Donc un bon petit groupe, ouais.
Donc vous jouez la montée là.
Mais après, je sais pas qu'est-ce que. Il n'y a pas de. En fait, si on finit premier, on sera champion Languedoc. Mm. Après, je sais pas quelles sont les politiques du club, si elles vont retenter les moins de 18 nationaux, les qualifications.
Oui, voilà,
après,
okay.
Ça, c'est du travail de formateur. Quoi. Mm.
Alors, du coup, moi, j'ai cru comprendre qu'en fait, pour les nationaux l'année prochaine, à moins de 18, c'est sur inscription.
Ah, donc, c'est d'accord, mais tu en sais plus que moi.
C'est ce qu'on m'a dit, hein, je sais pas si c'est vrai. Donc bon, je sais pas le club qu'est-ce qu'ils vont faire.
Après c'est sûr,
il faut voir l'effectif aussi.
Lise, c'est la responsable du secteur féminin, tout ce qui est formation, tout ça. Après, je vois Ludo qui parle financier, ça changera pas grand-chose.
Ça change pas grand-chose.
On l'a été, on a eu deux, on a eu même le côté garçon, côté fille en nationaux. D'accord. On a une équipe en N3. Après, il faut voir. Mais
par rapport
à N3, il faut savoir. On a une subvention aussi.
Par rapport à l'effectif de cette jeune équipe, il y en a combien qui montent un senior l'année prochaine?
Oui, c'est ça aussi. Ouais.
De tête, je te dirais 4.
Ah, c'est quand même pas mal, 4.
4 leaders, ouais.
Quatre
après, leaders, savoir aussi qu'est-ce que va faire le secteur féminin et senior. Est-ce qu'on va prétendre à un jour jouer la montée nationale 3, est-ce qu'on va essayer de mettre, de garder nos jeunes, parce qu'on forme du jeune, hein, Amandé.
Ouais. Tu regardes les côté, études, c'est toujours embêtant aussi.
Côté masculin, côté féminin, tu aurais deux équipes de N2, quoi. Hein. T'as des garçons que t'as, moi j'ai 5-6 garçons de ma génération qui jouent en nationale 2, hein. Lyonnais, Marseille, je pense à Rafi Voringer, Antoine Soulier, Jérémy Girard, tous ces garçons-là.
Voringer, Raphaël, il se met au tennis, maintenant je viens de voir ça sur l'excellent magazine Lozère.
Il voulait que tu lui fasses une dédicace Lozère. D'ailleurs.
Il m'écrit, ah, il veut une dédicace? Ouais. Ah ben j'ai eu pas salut Raphaël.
Non, pour Raphaël, tu vois, c'est un garçon.
Par contre, sur la photo, il a aucune dégaine. Quoi. Ah, sur la photo, sur le magazine.
Mais je te dis que j'ai joué contre lui. Bon, moi, je suis pas le plus grand tennisman du monde, mais ça on voit.
Ah ouais,
ouais, ouais. Et sa petite sœur, encore pire.
Ah bon.
Saskia Boringer était dans les 10 meilleures cadettes de France.
Ah ouais. Ouais, mais enfin, on parlait de lui. En fait, il a pas de dégaine quand il sert, quoi. Parce que là, c'était un service sur la photo.
Oui, oui.
C'est...
Il t'attend à Saint-Alban. Sa maman est responsable du tennis à Marjorie, là, tu sais.
Oui, ouais, j'ai lu l'article.
Bon, vous avez fini là, de papoter là.
Ah, ouais, je le prendrai à Saint-Alban.
Allez, on va.
Rendez-vous à 14h30. 14h30.
Il monte vendredi pour s'entraîner avec nous.
Ouais, vendredi, je peux pas. Samedi, je peux pas non plus.
Julien.
Non, mais juste pour en revenir sur les 18. Puisque depuis la semaine dernière, je suis la voix de la sagesse, donc je ramène un petit peu l'émission à sa raison.
Non, mais c'est vrai.
Et
t'as toujours été sage, même en cours.
Merci Max. Pour en revenir sur les 18, tu dis qu'il y en a 4 qui vont monter en senior, mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur les 15 qui vont monter en 18? Est-ce que la génération des 15 peut jouer en 18?
Elles sont aussi premières, je crois. Ouais, Lolo, tu parles mieux que moi.
Elles sont... Non, en poule haute, elles sont secondes.
Secondes, d'accord.
Ouais, donc elles sont bien.
Après, comme j'en reviens à chaque fois, Iblis fait un gros travail de formation. Moi, je pense que si on veut amener vers la catégorie senior, il faut rester en nationaux, même si c'est dur, il faut rester en nationaux. Quoi. Tu prends trop de rapports de force.
Par contre, 4 moins de 18 qui montent en senior, ça va leur faire bizarre, hein, parce que les seniors féminines, on les a reçues dans cette émission. Elles ont fini tous les cubis qu'on avait. Il va falloir commencer à les préparer à l'entraînement. Il faut que tu les gardes pour la troisième mi-temps pour en dire attention, ça va être différent l'an prochain. Il va falloir se mettre à boire un peu de bière, tu vois.
Hein. Je pense qu'elles en boivent un peu de la bière, déjà.
Non, mais c'est évident. Tu lis sous le ton de la plaisanterie, le passage entre moins 18 et senior, il y a quand même un très gros écart sur l'impact physique. Et c'est souvent ce qui pêche sur la première saison,
surtout le temps, balle.
Les premiers matchs, les premiers contacts. Il faut compter quelques mois avant que. Mais ça, c'est dans toutes les catégories.
Voire des années.
Tous les sports, au foot, c'est pareil.
Oui, mais plus particulièrement, parce que tu as souvent que 1, 2 ou 3 ans d'écart maximum. Là, tu peux tomber contre des seniors qui ont 40 balais. Alors toi, t'en as que 19 ou 20. Ouais.
Après, tu prends un exemple comme Valence, c'est que des gamins, comme tu dis, 17-18 ans, mais eux, ils compensent le physique par la vitesse. Quoi. Donc, un gars de 30 ans qui va courir, comme toi, Lolo, 45 minutes, et bien eux, ils vont courir 60 des sprints. Voilà. Même s'ils font 20 kilos de moins.
Non, mais 45 c'est, minutes, c'est que Valence, c'est un grand club qui recrute les meilleurs joueurs de sa région. Nous,
on
prend
formation,
les filles qui sont là, qui veulent bien jouer, quoi. Donc c'est pas pareil, on peut pas se comparer.
Il n'y a rien à dire sur l'handball Nord-Lozère. Les filles ne jouaient pas et donc les garçons ont perdu dernièrement. Tu suis un peu l'handball Nord-Lozère, toi,
tout
Maxime?
Tout à fait, ouais. Mais il y a pas mal d'anciens joueurs du MGC, que ce soit côté féminin, côté masculin. C'est un club, je trouve, qui vit très bien. Je pense à comment il s'appelle, qui était au foot l'an dernier. Ah, j'ai perdu. Qui est la mobilette, la Flo Baudin. Flo Baudin, qui s'investit à fond dans ce club.
Qui est coach des féminines, ouais.
Après, bon, pour ce week-end, Pierrefort, c'est l'équipe de N3. Ils ont tous les anciens de Saint-Flour, avec Mathieu Bonal, mon ennemi toujours.
C'est ce qu'ils disaient, voilà. Ouais, qu'ils avaient descendu, non, c'est justement.
C'est un club costaud. Qui vit bien, ouais, très bien. Et ça fait du bien à Lozère au niveau handball. Parce que...
Par contre, Flo, il s'investit beaucoup, mais du côté des féminines. Pas des mecs.
Il est malin.
Vous faites pas un peu des matchs amicaux contre...
Si,
ça se fait.
Je l'ai contacté pour faire un match amical avec moins de 8 filles. Ouais.
Ah, chouette.
Pour faire une peut-être journée conviviale, quoi. La 2 a déjà joué contre leur équipe première. Mm. Faire une journée conviviale, quoi. Finir par un barbecue.
Ouais, c'est bien. Voilà. Tu nous le rediras, ça. On l'annoncera. On viendra, Aurélien.
Oui, tu nous inviteras.
Bien sûr.
Allez, volleyball maintenant. Le MVL gagne au CNVB 3-7-0, mais Avignon va s'imposer à IAC sur le même score. Du coup, au classement, cela donne quoi? Ça donne Avignon à égalité de points avec Mende, 24 points, mais avec 1-7 encaissé de moins. Épinal, troisième, qui n'est pas encore décroché avec 22 points. Iliac, ça commence à être difficile avec 18 points. Alès, 15. Fréjus, 13. Aluin, 9. Le CNVB, 7. Donc, on est toujours derrière pour un 7 de différence. Ça va être compliqué, mais c'est pas perdu, Julien.
Et Iliac, qui est un petit peu décroché, c'est le prochain adversaire de Mende, samedi, à Piancourt, à 20h30.
On pensait quand même, on en a parlé la semaine dernière, qu'ils allaient faire... peut-être quelque chose contre Avignon, ouais. Au moins marquer un ou deux sets, et il n'y a rien.
Mais du coup, ce sera l'occasion de les mettre définitivement à distance, de les éliminer définitivement de cette montée en Ligue B. Et puis, il restera aussi la réception d'Épinal lors de la dernière journée. Si le classement venait à en rester là avec 2 points d'écart, ce serait peut-être l'occasion de jouer une finale à la maison contre Épinal. Entre-temps, il y aura eu un déplacement à Alès. Donc voilà, il reste deux réceptions, un déplacement à l'Est qui est pas le déplacement le plus lointain de la saison.
Et le plus compliqué.
Et ni le plus compliqué. En sachant que Avignon doit aussi affronter Épinal sur cette fin de saison.
Mais à l'extérieur, je crois. Hein.
À Épinal, oui.
À Épinal,
c'est ça. Donc Épinal peut faire office d'arbitre en cette fin de saison entre Avignon et Mende. Mais c'est une bonne chose en tout cas d'être allé gagner 3-0 au CNVB, puisque lors du match aller, les jeunes du CNVB avaient posé un petit peu de problème à Mende, puisqu'ils avaient réussi à gratter un set. Mais là, sur le match de samedi, sur les quelques retours que j'ai eus, à part une entame de match un petit peu délicate où il y a eu 14-8 pour le CNVB, Mende a de suite déroulé puisqu'ils ont mené 15-14 sur ce set. Et ensuite, ils ont gagné les deux derniers sets, 25-17, 25-17. Donc, il n'y a pas eu match contre le CNVB. Donc voilà, c'est bien de rester avec Avignon et de garder ses 2 points d'avance sur Épinal à 3 journées du terme.
Et Épinal peut espérer monter encore alors en rencontrant Mende et Avignon.
Tout à fait, c'est pour ça qu'ils peuvent faire office d'arbitre. Ouais.
On rencontre Épinal rencontre qui d'abord, Mende ou Avignon?
D'abord Avignon, puisque c'est Mende et Épinal la dernière journée.
Tant mieux. Donc comme ça, ils vont encore espérer. Si jamais ils perdent contre Avignon, ils seront un peu moins motivés contre nous. Ok, grosse saison du MVL, Maxime.
Grosse saison. Après, c'est vraiment. On va dire, c'est une autre dimension, quoi. C'est, voilà, National 1, c'est du semi-professionnel. Ils tirent toutes les billes du travail énorme de Constant. Voilà. Après, c'est pas la même dimension que le MGC, par exemple, c'est des joueurs de l'extérieur. Mais cette année, pour avoir discuté un peu avec Antovelé ou avoir eu des échos, ils ont une alchimie qu'ils n'avaient pas auparavant. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, premièrement sur la Coupe de France. Et deuxièmement, si monter possible, du moins sportivement, ça sera bien. Après, il faudra que ça suive derrière au niveau financier, quoi. J'espère pour eux, parce que c'est un club qui vit bien et on prend plaisir à aller les voir.
Je pense que ça suivra. Peut-être que ça sera un peu juste, mais je pense qu'ils auront le budget quand même pour aller au-dessus. C'est ce qui se dit en ce moment. Les prénationales garçons perdent à domicile contre 7, 3-7-2. Ils sont actuellement 9e avec 13 points. Alors, ils sont quand même revenus à 2 points de Montpellier. 3 qui est dernier non relégable, donc rien n'est joué. Par contre, ça sent le roussi pour les prénationales féminines après leur défaite 3-0 contre Béziers. 3-7-0 avec 10 points, elles stagnent à la 9e place, synonyme de relégation. Il reste que 3 matchs et il faut qu'elles engrangent au minimum 8 points et espérer dépasser Moggio.
Ça va être compliqué.
La dernière équipe non relégable qui a 17 points, donc c'est extrêmement compliqué.
Ouais. Ouais. Elles ont un match en retard qu'elles jouent ce week-end contre Saint-Estève qui est dernier. Donc déjà celui-là, il faut le gagner.
Oui.
Et ensuite, il restera deux autres matchs, pardon. Pareil qu'il faudra gagner en espérant des faux pas de Moggio, mais ça paraît mal engagé quand même pour les prénationales féminines, qui ont une saison très très compliquée dès le début, avec un manque d'effectifs dès le début de saison et des blessures.
Et puis il y a Amal qui est indisponible.
Il y a Amal qui est indisponible, ouais.
Elles sont un peu livrées elles-mêmes, c'est difficile.
C'est compliqué, ouais. Football, l'AFL fait tomber le leader Saint-Priest à domicile, 2-1 grâce à un doublé de Fadigol. Et derrière, d'ailleurs, ils peuvent s'en mordre les doigts parce que ceux qui sont derrière Saint-Priest, Bourgoin-Jallieu et Saint-Etienne ont fait tous les deux matchs nuls. Au classement, on
match
est...
Nul, mais Saint-Etienne, on risque d'avoir match gagné quand même.
Pourquoi?
Le match a été arrêté à la 93e à Cournon. Il y avait deux partout. Et il y a des illuminés dans les tribunes à Cournon qui ont eu la bonne idée de jeter des bouteilles... sur le terrain, dont une qui a rebondi juste à côté de l'arbitre. Donc le match a été arrêté et dans ces cas-là, l'équipe qui reçoit est mise en cause puisqu'elle n'assure pas la sécurité des joueurs et des arbitres. Donc il va certainement y avoir un match perdu pour Cournon, qui n'était pas très bien au classement puisqu'ils sont derniers et ça va certainement sceller leur sort dans ce CFA 2.
Ouais, et ce qui pourrait faire gagner donc 2 points à Saint-Etienne, j'imagine, voire 3, oui. Je ne sais pas si
ils avaient 35 points, 35 points sans compter le match, et donc certainement 38 et revenir à un point de Saint-Priest.
Ouais. Et ils peuvent monter en plus, Saint-Etienne.
Monter,
hein.
Ouais, ouais. Ils peuvent monter. Ouais.
Donc ils vont jouer la montée jusqu'au bout. Ouais. On les a joués 2 fois, Saint-Etienne, ou pas? Une seule fois, il faut qu'on aille à l'extérieur. Ouais. Ouais. Du coup, Mende 7e, 33 points, Louan, Cuiseau 35, Aurillac 35, Limonest 36, Saint-Etienne 35, ouais. Avec un match de moins, oui. Bourgoin-Jallieu 38, Saint-Priest 39, donc 6-7-9 à 6 points du leader. Belle saison, Maxime, de la une de l'AFL. Tu as vu quelques matchs? Tu
oui, je vais un peu quasiment tous les matchs, sauf là, parce que je coachais mes filles. Mm. Sinon, je vais à tous leurs matchs à domicile. C'est que c'est quand même plaisant de voir de la CFA de Mende, quoi. On voit des réserves, on voit des... C'est pas comme quand ils jouent l'an dernier, où il y avait 2-3 matchs intéressants, après ils étaient au-dessus, quoi. Mm. Là, on sent qu'il y a un groupe costaud, quoi. Après, espérons qu'ils gardent leurs meilleurs joueurs pour...
Pour l'an prochain,
ouais. Ouais, pourquoi pas penser à la CFA, même s'il ne faut pas brûler les étapes, mais l'infrastructure pour, en tout cas, j'ai l'impression,
ouais.
Amende.
Ah oui, c'est sûr, oui. Sachant qu'on a fait quelques contre-performances au dernier moment, où,
l'expérience, ça s'appelle.
C'est l'expérience, ouais, et on est qu'à 6.
Laurent Julien qui rentre à 88e, et voilà, on ferme tout.
Ouais,
pas vrai, Lolo?
C'est vrai,
on l'avait demandé au coach, mais on n'a pas été entendu.
Pas eu de réponse.
C'était quoi le match à l'extérieur où tu étais allé avec eux
et... C'était à Cournon, mais là, c'était les bouteilles, ils ne les envoyaient pas sur le terrain cette fois-là.
Et ouais, finalement, qu'à 6 points et doublé de Fadigol, donc ça c'est bien aussi.
Quand Gourma va, tout va.
Ouais, mais c'est ça. Oh, c'est beau ce que tu dis, tiens. Tu devrais faire de la pub, toi. T'as pas fait d'études de communication?
Si. Ou de la poésie.
Ou de la poésie, ouais.
Sur la pub.
La réserve, Vergès, débute à 0. Vas-y, oui.
Juste pardon, sur le match de ce week-end, c'est quand même pas anodin de faire tomber le leader, quoi, Saint-Priest, qui a clairement affiché ses envies de monter en CFA. Et puis, on a vu, ce qui m'a plu sur ce match, c'est qu'on a vu l'AFL jouer, vraiment. Et c'est grâce à ce jeu qu'ils ont fait vraiment trembler Saint-Priest. Mis à part une entame de match où Saint-Priest a touché la barre après une minute, où on s'est dit que ça allait être compliqué, mais au final, l'AFL a fait mieux que résister. Ils ont eu des vraies situations par Fadil, par Diallo. Il y a eu vraiment des vraies situations de buts. Et la victoire sur le match, elle est vraiment méritée, quoi. Même si Saint-Priest réduit l'écart à 20 minutes de la fin, on s'est dit, ça y est, on va encore trembler, comme à chaque match, on va connaître un quart d'heure et 10 dernières minutes compliquées. Il n'y a pas vraiment eu cette frayeur-là. Et donc, c'est vraiment bien de faire tomber Saint-Priest comme ça à la maison à 5 journées de la fin, puisque l'AFL, dans ses 5 dernières journées, va affronter les 5 premiers du classement. Donc, il va y avoir ce rôle d'arbitre. Et puisque, finalement, la montée n'était pas vraiment un objectif affiché en début de saison et que le maintien depuis quelques journées est largement assuré, ça peut rejoindre un petit peu ce que je disais par rapport à Vaux-en-Velin tout à l'heure, le fait de finir relâché.
Des matchs sans pression, voilà. Ouais, c'est ça.
Et d'aller décontracter. Là, le prochain match, c'est samedi à Bourgoin qui est deuxième. Et si tu venais à faire quelque chose à Bourgoin, pourquoi pas gagner, tu reviens à 2 points de Bourgoin et après tu peux t'autoriser plein de choses dans les 4 dernières journées, quoi. Donc voilà, finir la saison relâché en championnat, et sans oublier qu'il y aura la finale également de la Coupe Garloser à jouer contre Rousson au Vauvert. La demi-finale se joue dimanche à Rousson. Donc voilà, une bonne fin de saison à jouer pour la FL avec le retour du beau temps.
Non, mais c'est vrai que c'est très très bien qu'ils aient réagi, parce que le dernier match tu te prends un 5-0 et la fois d'après tu reçois le leader, donc tu peux te dire que au niveau mental ça peut être compliqué pour la fin de la saison, et là ils ont su réagir et ils gagnent contre le leader à domicile. Donc
assez déçu quand même par Saint-Priest.
Ouais,
je m'attendais vraiment à une équipe plus solide. La réserve de Saint-Etienne, par exemple, m'avait beaucoup plus plu que cette équipe de Saint-Priest. Même Limonest m'avait paru plus solide.
Limonest m'avait impressionné. Ouais.
Limonest m'avait paru plus solide que ça. Je sais pas, après, je connais pas Saint-Priest, s'il leur manquait des joueurs ou pas, mais assez déçu par ce leader. Ouais.
Est-ce que c'est pas l'AFL qui a vraiment élevé son niveau et qui a éteint cette équipe.
Puis en tout cas, ce qui est bien aussi par rapport à Fadil Gourma, c'est qu'on avait l'impression au début de saison qu'il avait du mal un petit peu à s'habituer à ce championnat de CFA2, lui qui a fini meilleur buteur des DH, DHR plusieurs saisons. Et puis là, en 2017, on retrouve vraiment le Fadil Gourma qui fait des efforts, qui est bon devant le but. Et il y a vraiment une complémentarité entre lui et Abdou Diallo qui fait plaisir à voir et qui pèse vraiment sur les défenses de CFA2. Et c'est pas pour rien que l'AFL a battu Saint-Priest 2-1 ce week-end.
Ouais. Oui, de toute façon, il fallait leur laisser le temps aussi de se connaître. Oui. On a de suite voulu que ça marche en disant c'est deux grands joueurs, mais bon, ça marche pas comme ça. Il faut le temps. Faudrait voir les stats un peu d'ailleurs de Fadil, savoir où il en est cette année, parce que c'est, à mon avis,
ce sera ma mission pour la semaine prochaine.
Exactement, c'est ça. La réserve Bavergès, 2-0, Robert et Garbi, donc ça sent très bon pour la montée. Ouais. Maxime, t'étais au match toi?
Ouais, je suis allé les voir samedi après-midi à Roufiac. Ouais, une belle réserve amenée par un coach, bon, je connais Max Tessier là. Qui est un guerrier, j'aime bien ce genre de coaching. Voilà, c'est une équipe réserve. Bon, il y avait Johan Robert, il y avait, ça tenait plus que la route, quoi. Ouais. Mais ils ont des petits jeunes là qui sont pas mal, hein. Des petits jeunes des 19 là, des Chaumet, tout ça, que je connaissais pas trop, enfin, ou qui sont maintenant seniors, mais on voit que la formation marche, quoi.
Voilà, c'est quasiment fait, hein. Il reste 4 journées, il y a 9 points d'avance sur Chusclan, 10 sur Saint-Privat.
Ça te donne quoi, une victoire, un match nul.
Une victoire à nul, ouais, pour être sûr, une victoire à nul, il reste il reste 4 matchs, donc
une victoire à nul, et sachant que les autres doivent tout gagner, donc
c'est fait à 80%, ouais, quoi.
Bon, mais tant mieux. Badarou, Sainte-Marie de la Mer, 3-1 pour Sainte-Marie. Alors là, par contre, ça sent pas du tout bon. Tu y étais aussi, non?
J'étais aussi.
Il est partout, ce Maxime.
Ah, mais je suis le sport, c'est...
Alors, ça t'a étonné un peu, ce match?
Non, parce Badarou, que bon, Badarou, c'est mes copains, je les supporte depuis très longtemps. Je suis l'aventure Coupe de France avec eux. C'est un club familial, j'adore ce stade d'esprit. Là, ils se sont... Malheureusement, il y a un rouge pour Sainte-Marie à la 40e. Ils prennent un but avant la mi-temps, Badarou, alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Derrière, du Sainte-Marie de la Mer, quoi, beaucoup de paroles, on tombe dedans. Et nous, on oublie de jouer. Voilà. Et Badarou est tombé, malheureusement. Ils reviennent à 2-1, ils ont l'occasion pour revenir à 2-2, face à face de Papy, qui marque pas, malheureusement. Voilà, c'est très dommage pour Badarou. Ils ont un match capital, on va dire, pour la semaine prochaine à Saint-Hilaire. Je crois que c'est ça.
Saint-Hilaire-la-Jasse, voilà. 31 points.
Donc, en gros, malheur au vaincu, presque. Parce qu'en gros, Badarou va prendre 2 points de pénalité aussi. Ça, c'est...
Ah.
On va prendre 2 points de pénalité par rapport aux sanctions au carton rouge, je crois, de Pierre Pétol. Pierre Pétavin, fin de mes échos. Donc, ils sont à 32 points, quoi, on va dire. Donc, il y en a 2 qui descendent. Donc, voilà. Malheur vaincu la semaine prochaine, en espérant qu'ils gagnent dans le Gard, nos amis du Gard.
Ouais, ça va être compliqué. On va suivre ça. Il reste combien de matchs? En plus, pas beaucoup aussi, c'est pareil.
5. Ils doivent toujours avoir, je pense, un match en retard. Donc, ils doivent leur rester 5 journées, ouais.
C'est pareil, ouais. Ok, Langogne gagne Saint-Amand 5-0, pendant que l'ENL va perdre à Thiers 3-0. L'ENL qui est avant-dernier, 33 points, sachant que la réserve 10h qui est juste devant à 37 points, donc ça y est, on commence à être à 4 points. Et on est à 9 points du 11e. Il y en a combien qui descendent, Julien?
2, je pense.
C'est 2, hein, ouais, c'est ça. Enfin, ça commence à faire beaucoup par rapport au premier non relégable. Oui, vas-y.
Pour finir, un mot sur les féminines, puisqu'on est obligé d'en parler maintenant.
Ah oui.
Depuis qu'elles ont été invitées ici, si on n'en parle plus. Alors la 1 ne jouait pas, mais la 2 a joué, puisqu'elles ont brillamment gagné contre le Buisson 13-1.
Bien.
Ça va.
Et avec un doublé de Mathilde, qui avait été notre invitée.
Ben, parfait, voilà. Ça. Super, Mathilde. Bravo, Mathilde.
Et du coup, est-ce qu'elle a enlevé le maillot, comme elle avait promis la dernière fois?
Je sais pas. Je jouais contre Remail au même moment, j'ai pas pu voir.
Le 9 qui jouait face à Banarou l'a enlevé hier, mais je pense qu'il s'en rappellera toute sa vie.
Pourquoi? Il a pris un coup de soleil?
Hein? Non, parce qu'après, je l'ai pris en grippe et c'était fini.
Ah. Allez, ben, on va sur ça. On fait une pause musicale. On revient après avec l'actu nationaux, internationaux. Allez, on va écouter. Qu'est-ce qu'on écoute, Laurent? T'as envie de quelque chose?
Non, je sais pas, vas-y, bon. fais ton idée.
Allez, on va écouter Linkin Park alors. Allez, c'est reparti, Actu Natio International. Solide, complet, efficace. Les Parisiens ont remporté la première coupe de la Ligue en handball face à Nantes, 31-27. Maxime, Nantes, ils doivent en avoir un peu marre hein, de jouer contre Paris là, tout le week-end.
Éternel second cette année, Nantes. Après, voilà, Paris, ça reste Paris. C'est Qatari, c'est tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune identité club. Il y a un travail de formation qui est fait, je le sais, parce qu'il y a un ancien gars de Mende qui est au centre de formation à Paris, mais avec aucune perspective d'évolution, quoi. Mmh. Nantes, c'est plus un club à identité familiale, et c'est bien ce qu'ils font face à Paris, ils existent. En championnat, c'est pas fait encore. Bon, après, sur un match sec, en finale, ça s'est fait. Il y avait égalité à la mi-temps, quand même.
Oui. Troisième week-end d'affilée qui joue l'un contre l'autre, parce qu'il y a eu la Coupe,
il y a eu la Ligue des Champions. Tout à fait. Mais bon, après Nantes, chez eux... Voilà, à Beaulieu, là, ça sera une autre affaire.
Oui, c'est sûr. Ouais. Tu vois Paris aller loin en Ligue des Champions cette année?
Je les vois gagner.
Tu les vois gagner carrément?
Ouais. Je les vois gagner. Je les vois gagner parce que ça s'est renforcé de partout, mais à côté de ça, il n'y a plus, comme avant, le Barcelone n'est plus autant injouable qu'avant. Kiel a pris une tôle à Paris. L'Echprem sera costaud l'an prochain. L'an prochain, gros recrutement, 8 gros joueurs. Mais voilà, cette année, Paris, je les sens gagner. Ouais.
Mais ils gagneront contre Montpellier, tu crois ?
Non, Montpellier, à mon avis...
Ils passent pas le prochain ?
Ça va être dur.
Ouais.
Dur, même s'il y a un boulot... Là, il y a un vrai boulot de formation, il y a un boulot énorme. Quoi. Mais...
C'est compliqué.
Pour exister après sur la sphère européenne et internationale, il faut du renfort. Quoi.
Et oui. Sachant qu'en plus, l'an prochain, Montpellier va perdre des joueurs, donc ils ont intérêt de...
Dolenec, Fabregas va aller à Barcelone l'année d'après. On arrive à garder les pépites, un an ou deux, puis après...
Ça commence à être compliqué, ça se professionnalise vraiment, là, avec l'arrivée...
Ça se professionnalise, ils ont tous des gabarits de rugby.
Oui.
Voilà. Les petits jeunes qui sont en centre de formation, il leur faut 20 kilos de mieux pour exister, ou il faut des compétences athlétiques hors normes. Mais oui. Après, la formation française est encore au-dessus. On le voit avec l'équipe internationale, l'équipe nationale. Au niveau féminin, c'est encore un peu différent. Elle a encore 5-6 années de retard.
Oui, mais ça, c'est dans tous les sports féminins par rapport au sport masculin. Mais malheureusement, on pourrait dire. Mais,
Une bonne joueuse de N1 peut faire les piges en D1. Voilà, il n'y a pas vraiment... je ne trouve pas qu'il y ait un écart flagrant, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Tandis que nous, tu passes à la Nationale 3 en Coupe de France, tu prends une des deux, tu rigoles.
C'est fini.
C'est pas comme au foot, c'est une CFA2, tu accroches à l'Avignon comme à l'époque. Nous, on prend une des deux. Venez voir le cirque, quoi.
Ouais, c'est sûr. Alors, Raphaël vient d'envoyer un message, il t'attend samedi, Laurent.
Samedi, ouais.
Samedi à Saint-Alban.
Il faut que j'aille accorder ma raquette d'abord, et puis après, il n'y a pas de problème.
Il m'a dit si tu veux, il joue main gauche.
ok, on verra.
Rugby. Aurélien, une page qui se tourne avec Toulouse qui certainement ne va pas participer au play-off.
Très certainement même.
Ouais, très certainement après cette défaite de ce week-end.
Première fois depuis 40 ans que le Stade toulousain ne sera pas en play-off. Donc on s'attendait à ce que l'après-l'ère guinovaise soit difficile. On en a la confirmation cette saison. Assez catastrophique, vite à oublier.
Alors il faut que tu dises à Raphaël d'arrêter de t'envoyer des messages parce que ça grésille dans le poste.
Raph, s'il te plaît, on se voit vendredi, attends un peu.
Montpellier qui a un coup à jouer avec son match en retard.
Oui, Montpellier qui profite de la défaite de Clermont ce week-end, qui a perdu contre
c'est
Brive.
Ça, contre Brive, ouais.
Ouais, donc le fameux match en retard contre le Racing suite à cette histoire de fusion.
Sera-t-il joué ou
qui
pas
qui va se jouer, qui va pas se jouer, on ne le sait pas, effectivement. Mais du coup, Montpellier a une bonne carte à jouer pour essayer d'aller piquer la seconde place à Clermont. Seconde place qui est, je le rappelle, directement qualificative pour les demi-finales. Donc La Rochelle premier semble intouchable. Ça va se jouer entre Clermont et Montpellier.
Voilà, ça pourra faire des belles qualifications après parce que c'est Toulon qui est quatrième du coup. Si Clermont redescend à troisième place, on va avoir Clermont, Toulon, Castres et certainement Pau pour jouer ces demi-finales après.
Pau ou le Racing. Pas encore. Ouais, des demi-finales qui vont avoir lieu à l'Orange Vélodrome de Marseille, d'ailleurs.
Ouais, voilà, c'est ça.
Sur un week-end.
Quel beau nom, ça, Orange Vélodrome. Hein
en fait, Montpellier, ils ont un match de moins, c'est contre le Racing, c'est ça.
C'est le fameux
match qu'ils n'ont pas joué.
C'est ça.
Donc, on ne sait pas s'ils vont jouer
à domicile.
On ne sait pas.
D'accord.
Ils auront peut-être match gagné.
Donc, le Racing peut doubler Pau.
Ouais.
À la deuxième place.
C'est ça.
Effectivement, donc les barrages qui vont avoir lieu à Marseille, du coup, avant la 3e, 4e place avait un avantage puisque tu jouais ton barrage à domicile contre l'autre. Cette année, pour faire un grand événement phase finale autour du rugby, ils ont décidé de tout regrouper, de regrouper tous les mêmes matchs sur un week-end. Même ça, c'était fait l'an dernier, je crois, c'est pas la première fois. Donc c'est vrai que du coup, t'as plus un avantage à finir 3e ou 4e. Donc ça serait bien, effectivement, Montpellier aurait la bonne idée. D'aller essayer de gratter cette deuxième place.
Oui, et Clermont va se mordre les doigts de sa défaite contre Brive à domicile. Peut-être.
Ouais.
Ce mardi, la Ligue des Champions reprend. Dortmund reçoit Monaco, on l'a dit en première partie des émissions, sans Sidi Bé qui, ça y est, vient de déclarer forfait. Donc, on revient au pronostic. Maxime, tu es le champion avec 5 points, vu que Patrick n'est pas là et que tu paries pour lui. Donc, c'est à toi à commencer
Alors, c'est du handball, sur quoi on pariait. Donc, tu peux donner un 32-28,
des trucs comme ça.
Tu peux prendre un temps mort aussi. Si tu veux.
Patrick, ça va quand on s'est vu samedi que tu m'as donné un billet, tu avais prédit déjà. Donc, je vais pronostiquer 3-1 pour Dortmund.
Ouh, il aurait pas du tout dit ça, Patrick, mais bon... C'est très bien, 3-1 pour Dortmund. Aurélien.
Moi, je dis 3-2 pour Dortmund.
Très bien. Ça me va aussi. Julien.
De partout.
De partout. Ouais. Ok, je vais dire 2-1 pour Monaco, moi.
Ah ouais.
Allez Lolo, sinon Patrick revient pas la semaine prochaine. Hein, si tu marques
donc Dortmund-Monaco, je dis 4-2 pour Dortmund.
Eh ben ça va planter hein, si on vous écoute. Hein.
Je prends 20% Patrick, je te l'ai dit.
Personne n'a donné le même résultat. Donc.
Ouais.
Il y a tout pour que ça plante.
Il y a tout pour que ça plante, carrément. Allez, bah, on verra ça dans deux semaines parce que la semaine prochaine c'est férié, donc il n'y a pas d'instant sport. C'est le lundi de Pâques. On va aller chercher des chocolats dans le jardin. Hein, Laurent?
Exact.
Dans ton beau jardin bien tondu, tu peux pas les cacher les chocolats.
Non, il y a plus.
Faudra que tu les mettes dans le barbecue.
Dans le froc.
Dans le froc.
Il y a juste la soirée des drôles le dimanche soir du RCML.
Ah, c'est dimanche soir.
J'ai mon petit frère qui joue au RCML, donc je passe un petit mot. Venez nombreux à la Vernède, soirée des drôles, ça risque d'être
drôle.
Fort sympathique.
Ok, c'est noté. Le RCML qui a fini sa saison, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas revenu dessus aujourd'hui. Ouais. Rapidement, Paris-Roubaix parce que bon c'est l'actu, bien que le cyclisme ça nous intéresse pas plus.
Comment ça?
Comment ça? Aurélien, donc on va en parler.
D'ailleurs, lundi dernier, je voulais qu'on parie sur Paris-Roubaix, tu n'as pas voulu, et je voulais parier sur Van Avermaet, tu vois. J'aurais eu un point.
Ouais, mais, trop facile, ça.
Voilà. Ouais, trop facile, hein. On voulait tous parier sur lui.
Il ne fera pas le tour parce que
je trouve ça scandaleux.
Contrôler la transfusion.
Ouais, c'est quoi ça, 45 km/h de moyenne le plus rapide là? Bon, ok, il fait beau, on dit, ah, bah, il fait beau.
Personne ne le connaît, le mec qui arrive, 45
km/h. Ouais.
Personne ne le connaît, il est quand même champion olympique.
Acheter un vélo électrique.
Il est quand même champion olympique.
Il est champion olympique, Laurent, quand même.
Ok, je ne savais pas.
Mais comment tu fais du 45 km/h sur des pavés?
Je sais pas. Alors déjà,
roule à 60 à certains moments.
Déjà, c'est pas, il y a pas les pavés tout le temps. Il y a que des secteurs pavés. Il y a 52 km de pavés sur la course, sur presque sur 180 km en tout. Donc, t'as plus de.
Tu l'as regardé hier? Me dis pas que tu l'as regardé. Quand
je l'ai regardé un petit peu. Après, j'ai dû prendre la route, mais j'ai regardé le début. Ouais.
Ok. On va rester avec toi, tiens, parce que Nicolas Batum vient d'annoncer qu'il disputerait pas l'Euro avec l'équipe de France pour se consacrer à son club.
Classique.
Mais Batum l'avait jamais fait. Il avait toujours été disponible pour l'équipe de France. Là, on l'aura pas.
Ouais, mais c'est dommage. Hein. C'est dommage. Choix personnel. J'ai l'impression que pour cet Euro, les défections vont être de plus en plus nombreuses. Là.
Ça va être compliqué. Ça commence. Qu'est-ce qu'il a compliqué. Il a dit quoi, Gobert? Il a rien dit pour
l'instant.
On
sait pas encore, ouais.
Parce qu'il a re-signé, donc normalement, lui, son prêt personnel est réglé.
Ouais, tout à fait.
Remarque, Batum aussi avait re-signé.
Ouais, Batum aussi, ouais. Batum aussi, mais bon.
Ça doit être une obligation, la sélection.
Non, mais tout à fait, ouais.
Je trouve ça triste.
Ouais. C'est très triste, ouais.
Mais disons que là, ils ont perdu le match ce week-end, Charlotte, donc c'est sûr qu'ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Donc il a décidé, effectivement, plutôt que d'aller faire l'Euro, de s'entraîner individuellement pour revenir plus fort la saison prochaine pour essayer d'accrocher les playoffs.
Mais alors, c'est pas fini. Ils peuvent encore se qualifier, non?
Non, c'est fini.
Ah non, c'est fini. Ils sont.
Ils se qualifieront pas pour les playoffs, contrairement à Portland.
C'est à cause de Portland, ça?
Non, ils sont pas dans la même.
Ils sont à l'est.
Pas dans la même conférence. Mais ouais, c'est vraiment dommage parce que justement, Nicolas Batum, il était désigné pour être le futur leader de l'équipe de France. Tony Parker, les deux dernières campagnes de basket, Tony Parker lui avait donné un petit peu les clés du camion de l'équipe de France, justement pour qu'il le remplace au leadership, pour qu'il soit le nouveau porte-parole du basket français. Et puis on voit que sur les dernières compétitions, notamment au JO, il a pas tenu ce rang-là, que ce soit au niveau du scoring ou au niveau de la qualité de jeu. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui.
Et Parker, il joue toujours lui en équipe de France?
Non, il a arrêté après les Jeux Olympiques. Ouais. Il a arrêté la sélection nationale. Donc voilà, les derniers JO, ça s'est fini un peu en queue de boudin parce que justement, Parker voulait que Nicolas Batum soit le nouveau leader, sauf qu'au niveau du jeu, c'est plutôt Nando Docolo qui a pris les rênes de l'équipe, donc ce qui a créé quelques distensions à la fin des Jeux Olympiques. Et donc voilà, il y a un petit contentieux en équipe de France qu'il va vite falloir régler.
Oui, certainement. Pour
la pré-parcours aussi, ça donne ça assez compliqué
assez au niveau compliqué,
de l'équipe de France.
Sinon, il faut laisser les clés aux jeunes.
Mais ouais, tout à fait, ouais.
Pourquoi pas, hein.
Ouais,
il y a des très bons jeunes qui arrivent.
Nando Docolo, c'est pas parce qu'il joue en NBA que c'est une pipe, quoi. Je veux dire, il a le talent, il a le...
Ah, c'est le meilleur joueur de Euroleague depuis 2-3 saisons.
C'est le meilleur joueur de Euroleague, je veux dire. Faut pas aussi que Tony Parker donne les clés du camion comme ça à qui il veut. C'est aussi aux jeunes, maintenant qu'il est parti, de prendre sa place et de prouver ce qu'ils valent.
On reste en basket NBA. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Portland?
Gagné.
Ils ont gagné. Combien de points de Lillard?
59 points Damien Lillard dans un match.
Pour une victoire. Pas mal.
De 110 à 91, je crois. Tout comme ça.
Donc, ouais. Du coup, ils sont combien, 8e, Portland?
Ils sont 8e, tout okay. à fait.
Ils vont tomber contre les people de Golden
ils ont,
State.
Ils ont creusé le petit écart, là. Ça sent bon pour la qualif.
Justement, Westbrook a réalisé son 42e triple-double de la saison dimanche à Denver. Il est face à un record vieux de 55 ans qui était tenu par Oscar Robertson, que plus personne ne connaît, évidemment. Mais il a aussi manqué le tir de la gagne pour Oklahoma City à la sirène. Donc c'est un peu Westbrook, ça. Il fait des grosses stats, mais après, ça ne fait pas forcément gagner son équipe.
Ouais, des gros stats, mais 42e triple-double de la saison, c'est quand même assez exceptionnel.
C'est exceptionnel.
C'est vraiment,
il va être MVP, Aurélien.
Ah ben là, je vois pas comment le titre de MVP peut lui échapper, hein, puisque le titre de MVP, c'est le meilleur joueur de la saison, donc c'est une distinction individuelle. Donc là, avec les stats individuelles qu'il a, je vois pas comment ça peut lui échapper.
On finit une dernière info en tennis.
Pardon, oui. Juste pour finir avec le basket, Rudy Gobert, lui aussi, a écrit une petite page de l'histoire de la NBA puisque c'est seulement le 12e joueur de l'histoire de la NBA qui compile dans une seule saison 1000 points, plus de 1000 points, plus de 1000 rebonds et plus de 200 contre 1. Donc c'est seulement le 12e joueur de l'histoire à le faire dans une saison. Donc voilà, un petit cocorico aussi, il est assez énorme.
Il a des chances d'être élu meilleur défenseur de la ligue alors.
Sur le jeu pur, le talent pur et vu ce qu'il donne, il a des chances. Après, on sait qu'il y a aussi un petit peu de politique dans ces distinctions-là. Donc, est-ce qu'ils vont pas mettre un Américain on ne sait pas.
On ne sait pas.
On verra bien.
On verra ça.
Mais il le mérite, ouais.
Coupe Davis, on est en demi-finale contre la Serbie de Djokovic à la maison. Donc, Noah a annoncé ça va péter. Ça va péter dans quel sens, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Tu crois pas?
De quoi?
À cette demi-finale contre la Serbie?
Si, c'est bien.
Si Djokovic joue pas, comme ce week-end avec les Anglais.
Si Djokovic joue, il nous mettra les 3 points. S'il joue pas, on peut y croire.
Voilà. Bon, mais je crois que t'as bien résumé. On est d'accord.
Non, mais c'est un peu cliché, mais ça aurait été pareil s'il y avait Murray ce week-end. Murray aurait gagné ses 2 simples, il aurait gagné le double avec son frère.
Mais attends, on a Pioline blessé qui va jouer.
Ou pas. Grosjean et Clément vont revenir aussi. Hein.
Ouais, c'est peut-être ça. Ok, Maxime, merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci à vous, toujours un plaisir.
Allez, on vous suit, hein. il faut garder cette 9e place, faut rien lâcher, mais on vous fait confiance.
On lâchera rien.
Et attention au temps mort. Hein. Ok, parce que maintenant, Laurent, chaque lundi, on va lui demander un point. On va faire une chronique spéciale, point sur les temps morts de Maxime.
La prochaine fois, si tu ne sais pas quoi faire, tu te retournes vers les tribunes et tu demandes à Laurent.
Tu demandes à Laurent.
Dans 15 jours à Valence, j'appelle Lolo la mi-temps.
Non, mais je vous accompagnerai.
Jingle temps mort.
C'est bon ça. Allez, ciao les gars, merci. Allez, à dans deux ciao. Semaines.
Les Street John au couloir numéro 2. Allez, les Street. C'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, si t'as remarqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.